Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Que la gloire de Dieu soit sur vous, pour vous aider à marcher dans ses voies. Recevez tout son pardon et sa bénédiction. Allez en paix, dans la joie, dans l'amour. Seigneur, tu donnes une paix, tu donnes une joie à celui qui se repose en toi, qui donne la force. Cette paix donne la force. Le fait que tu es avec nous, le fait que tu es avec moi, Seigneur, me donne la force pour vivre, la force pour supporter les difficultés de la vie. Et de trouver toujours une force en avant pour toujours agir, toujours vivre, toujours espérer, toujours rencontrer, ou contester, ou approuver. Seigneur, merci. Je te prie pour tous ceux qui m'écoutent et qui ont aussi reçu cette force et cette paix en eux, la force de Christ, dans le saint nom de Jésus. Amen. Bonjour Annette. J'espère te rencontrer ce dimanche au culte, il fait moins chaud. Et je vais aller racheter deux chaises convenable pour toi. J'en ai retrouvé une, mais je me demande où est passée l'autre, chère Annette. C'est incroyable, ici, chez nous, dans notre maison. C'est pas qu'on l'a volée, mais où elle est, tout se déplace chez nous. Ça bouge de trop, ça vit de trop. Alors, gloire à toi, dans le Seigneur, sur deux bonnes chaises. Et bonjour Antoinette. Antoinette, il y a presque Annette dedans. Bonjour Antoinette, et bonjour à bien d'autres. Au nom de Jésus, amen. Je vous recommande aux éditions Vida, et c'est pas cher, 19 euros, aux éditions Vida, un livre d'un journaliste qui est devenu ensuite pasteur, qui s'appelle Lee Strobel. Lee Strobel. Ce livre est remarquable. Et voici le titre du livre. Jésus l'enquête. Ce livre est d'une grande valeur. Quand on dépense de l'argent souvent à des bêtises, enfin des choses secondaires, il y a des choses qui en valent la peine. Et ce livre en vaut la peine. Lee Strobel, L-E-E, Strobel, S-T-R-O-B-E-L. Alors, Jésus l'enquête, un journaliste d'expérience à la poursuite du plus grand événement de l'histoire. Cet homme était athéiste, incroyant, et cherchait tous les prétextes pour fonder son athéisme, son incroyance. Et puis, des événements dans sa vie l'ont amené à changer de point de vue. Je n'irai pas loin dans le livre avec vous. J'irai dans la première histoire qu'il vous raconte. Cette première histoire, je ne vais pas tout lire, je vous résume. Monsieur James Dixon a jugé que l'affaire était dans le sac. Toutes les pièces au tribunal, toutes les pièces, les preuves étaient contre un certain monsieur Dixon. Et monsieur Dixon était accusé d'avoir abattu un officier de police qui s'appelait Richard Scanlon, 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 d'un coup de fusil dans l'abdomen. Ce policier a survécu à sa blessure, puis fut décoré pour la bravoure dans son intervention contre monsieur Dixon. Mais que s'est-il passé au juste? Monsieur Scanlon, Scanlon, sergent de son métier à la police, s'était précipité à une adresse indiquée parce qu'on lui avait signalé un voisin, un homme armé, dangereux. Voilà. En fait, monsieur Dixon, l'homme dangereux, supposé dangereux, et le papa en était arrivé aux mains. Un coup de feu a retenti. Le policier s'est éloigné en titubant, atteint à la taille. Aussitôt, des voitures de police sont arrivées et ont coffré M. Dixon. Le tribunal fut entièrement à charge contre M. Dixon. Voilà que l'enquêteur, le monsieur journaliste athée, était là et étudiait tout. Et ça semblait une affaire classée, comme il y en a plein. Mais il rentre à la rédaction de son journal et un coup de téléphone d'un informateur qui se veut très discret dit, vous savez, ce monsieur Dixon n'est pas forcément l'auteur de la blessure quasiment mortelle faite à l'officier de police. Pourquoi? Expliquez-vous. Eh bien, ce policier a été dans des fêtes, des fiestas, et il s'est vanté d'avoir un revolver, un stylo revolver. C'est donc un stylo qui ressemble à un stylo, et en fait, il y a une balle dedans, et si on appuie sur le bouton, la balle barre. Et ce monsieur Scanlon, ce policier, a déjà eu des problèmes autre part. Donc, il se fait que le journaliste, ainsi que la police, la justice, qui avait été avertie par cet informateur, refont tout le jugement et recherchent des preuves scientifiques. Et constate que c'est vraiment une balle d'un stylo pistolet, un stylo à balle. Et que l'accusation et la condamnation qui avaient été portées sur M. Dixon ne tenaient pas la route. M. Dixon avait une mauvaise réputation, il avait déjà eu des bagarres. Il avait déjà eu des bagarres, et puis après enquête faite, il avait été déjà disculpé dans différentes bagarres. C'est un gros gaffeur, monsieur Dixon, mais c'est pas un tueur. C'est un gros gaffeur qui chaque fois s'est trouvé accusé de ceci, de cela, et il n'a pas pu vraiment se défendre. Il n'avait pas la capacité ni les soutiens. Et tous les faits semblaient laisser croire à tout le monde qu'il était le coupable. Donc, monsieur Scanlon, qui avait été décoré, on lui a repris sa décoration, on l'a limogé de la police. Quand on a su que réellement, ce n'est pas M. Dixon qui avait tiré dessus. Mais c'est lui, dans une maladresse, en s'enfuyant de la bagarre entre deux hommes, entre Dixon et son père, c'est dans sa maladresse qu'il avait fait partir la balle de lui-même, qui était dans sa poche, dans son ventre. Si vous voulez, il faut bien se dire ceci. Monsieur Dixon, lorsqu'on l'a interrogé et qu'on lui a demandé s'il était coupable, il a dit « Oui, je suis coupable, c'est moi qui ai tiré sur M. Scanlon », alors qu'il n'avait pas fait. Et pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il avoué un crime qu'il n'avait pas fait? Mais simplement parce que l'avocat l'avait dit « Si vous refusez de reconnaître les faits, vous allez avoir 20 ans de prison et ça va être infernal et ça va coûter très cher. » Mais si vous reconnaissez les faits, vous n'aurez pas beaucoup, la peine sera allégée. Donc l'accusé qui a reconnu une faute qu'il n'avait pas faite. Ce monsieur Dixon a reconnu une faute qu'il n'avait pas faite. Chers amis, dans la justice, il y a énormément de choses comme ça, où les avocats donnent des conseils qui gêne la vérité ou l'empêche. Monsieur Dixon a été déclaré innocent, comme lors d'affaires précédentes. C'est le roi de la gaffe. Il est toujours là où il ne faut pas, et finalement, grâce, je dirais, à la Providence, il s'en sort. Pourquoi les avocats habituent-ils leurs clients à travestir la vérité? Parce qu'un grand menteur existe depuis qu'il a séduit Adam et Ève. Et ce grand menteur existe toujours. Ce grand menteur, le grand-père du mensonge, existe toujours. Et vous savez très bien que dans Jean chapitre 8, Jésus dit aux pharisiens, aux responsables religieux, votre père, c'est le diable. Il est menteur depuis le début. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, donc Jésus parle pour lui. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous avez bien compris, l'enjeu est capital. Parce que ces gens-là qui sont en face de Jésus vont l'accuser d'un tas de choses pour l'éliminer. Et Jésus va accepter les accusations. Jésus ne va même pas ouvrir la bouche. Jésus va laisser faire. C'est assez étonnant. En tant qu'homme, on ne se laisserait pas faire. Mais pourquoi? Est-il comme monsieur Dixon, apeuré, sans moyen pour se défendre? Est-il un gaffeur? Est-il le roi de l'embrouille, sans trop comprendre comment ça lui arrive? Mes amis, ce n'est pas le cas pour Jésus. Si c'est pour le cas pour Dixon, ce n'était pas le cas de Jésus. Pourquoi? Jésus a répondu à Pilate dans Jean chapitre 18, verset 37. D'abord Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Pilate est tellement habitué à diriger un tribunal, tellement à entendre des mensonges, tellement à entendre des accusations fausses ou des plaidoyers faux, que pour finir, pour lui, la vérité, c'est tout à fait quelque chose de mensonger en général. Il est donc clair que Pilate dit qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est un homme qui est devenu sceptique, qui ne connaît plus rien du droit chemin. Il est obligé de naviguer dans l'humanité mensongère qui se débat à travers des accusations, à travers des sévices, etc., où tout le monde ment. Vous savez très bien que dans les 10 commandements, le dernier commandement qu'a donné à Moïse, tu ne feras pas de faux témoignages. Et clairement, c'est ce cas qui court les cours d'assises, les tribunaux actuellement, et qui courait déjà les tribunaux de M. Pilate. Donc quand il a en face de lui quelqu'un comme Jésus, il finit par dire, il n'a pas commis de crime. Il voit que cet homme est vrai. Il voit que l'homme Jésus de Nazareth est vrai. Et que cet homme est venu pour témoigner la vérité. Mais lui, il ne sait pas encore ce que c'est que la vérité. Mais il voit bien que cet homme est vrai. Sans savoir adhérer à lui. Sa femme qui a eu des mauvais rêves, qui a eu des présages, lui dit, attention, ne t'occupe pas de cet homme, ça va nous coûter cher. Chers amis, elle était avertie que le conflit qui se passait autour de Jésus, ce tribunal, ces accusations, n'étaient qu'une embrouille diabolique. Elle l'avait ressenti et elle voyait la gravité, la présence du grand menteur alentour de Jésus, le vrai, la vérité, le prince de la vérité. Cette femme avait compris, mais n'avait pas les moyens d'échapper à ce piège, ni son mari. Son mari, pour finir, a dit, je vais vous libérer un bandit, Barabbas ou Jésus, en croyant que les responsables allaient dire, ben, libérez Jésus, enclouez Barabbas, crucifiez-le. Non, pas du tout. Sans preuve valable de tout ce qu'ils avançaient, il fallait accuser, établir des faits mensongers et exécuter Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, pour qu'on en soit arrivé à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Rappelez-vous l'histoire de la femme adultère. La femme adultère est prise en flagrant délit de son commerce. Sans doute qu'elle avait cette pratique, ou une fois, ou 100 fois, peu importe. Jean, chapitre 8, verset 3. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes, toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser et de le condamner. Forcément, Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Jésus écrivait avec le doigt sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Jérémie, chapitre 17, verset 12, il est dit ceci, que le nom de ceux qui sont condamnés, qui sont séparés de l'Éternel, leur nom est inscrit sur la terre. Simplement, Jésus est en train d'écrire le nom de tous ces gens-là sur le sol, dans la poussière. Et il y a bien sûr, dans tous ces gens-là, un qui a compris. Il est parti le premier. Il écrivait sur la terre le nom des menteurs, dirigés par Satan, qui voulait la mort de cette femme et qui voulait la mort de Jésus. Continuons. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. L'expression au milieu, chez les rabbins, ça veut dire en présence de Dieu. Le lieu au milieu, c'est ça. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Vous voyez que Jésus combat les menteurs, combat les magouilles, les tribunaux injustes, les accusateurs. Que Jésus lui-même devient un obstacle majeur à leur comportement, à leur pratique du mensonge. C'est une pratique du mensonge qui est institutionnelle, comme dans toutes les grandes religions. Et Jésus se heurte à cela. Au péché de l'homme institué en système. N'oubliez pas que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et qui n'a pas changé une lettre des 10 commandements de Moïse. Même pas un point sur un « i », Matthieu chapitre 5. Il est intègre, il a accompli la loi, parfaitement. Il l'a dit lui-même dans Matthieu chapitre 5, « Je suis venu accomplir la loi, je ne suis pas venu l'abolir. » Tandis que ceux qui vont tuer Jésus un jour, ceux qui voulaient tuer cette femme, magouillaient avec la loi, toujours à leur avantage, pour assouvir leur besoin de pouvoir et de haine, et surtout pour faire les plans du diable. Alors, chers amis, si Jésus est venu sur terre, c'est pas qu'il veut échouer, c'est le bon berger envoyé par Dieu sur terre. Et Jésus a dit, au chapitre 10, verset 8, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Donc, il y a quelque chose que Jésus dévoile, c'est que la foule se rend compte qu'elle a des mauvais dirigeants spirituels, et que la foule en a marre, mais n'ose pas bouger. Elle ne peut rien faire contre eux. Ils ont la force avec eux. Les intrigues, les ruses, les meurtres avec eux. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Pensez-vous que Jésus est venu sur terre pour échouer et que les brebis n'aient pas la vie en abondance? Non. Si vous pensez que Jésus a échoué sur terre, c'est le diable qui vous conduit. Vous vous trompez. Jésus réussit sa mission sur terre. Jésus est le bon berger envoyé par Dieu. Jean chapitre 10, verset 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Voici donc ce que dit Jésus, « Je mourrai pour mes brebis. » Je mourrai pour mes brebis. Verset 14. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Nous voyons réellement que l'engagement de Jésus va vers une exécution qui est diabolique, qui est injuste, et il va se laisser faire. Donc l'histoire que je vous ai racontée avec M. Dixon, c'est clair, M. Dixon a avoué qu'il était un malfaiteur alors qu'il n'était pas. Jésus s'est fait traiter de malfaiteur, pour le plus grand des malfaiteurs, par ses dirigeants, et il a été cloué à la croix. Parce que il était considéré comme l'ennemi du peuple, l'ennemi de la loi de Moïse, l'ennemi de la religion du temple. Chers amis, c'est le grand prêtre qui a décidé. Il vaut mieux qu'un seul homme périsse plutôt que toute la nation. Vous savez très bien que la haine s'est développée à l'égard de Jésus, lorsque sa gloire a été dévoilée, lorsque sa gloire réelle a été montrée à tout le monde, c'est là que les dirigeants ont été les pires. Quand Jésus ressuscite Lazare, son ami Lazare, dans Jean chapitre 11, il dit ceci, verset 39, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc Jésus a conscience qu'il est habité de la gloire de Dieu. Il a conscience que le Père manifeste sa gloire à travers lui et qu'il est la représentation de la gloire de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'Apollos, quand il écrit Hébreux, l'Épître aux Hébreux, dans les années 60-65, pour des chrétiens d'origine juive et qui auraient voulu remettre des prêtres dans le christianisme, etc., ils étaient injustifiés, revenir à des rites dans le temple et tout, eh bien, et abandonner la grâce du salut, eh bien, il y avait chez cet homme, Apollos, une conception très forte. Il dit que Jésus est l'image de la gloire de Dieu, la représentation de sa nature. Il soutient tout par sa parole puissante. Lisez les 3 premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Ça correspond ici à Jean chapitre 11, verset 41. « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Pour vous, chers amis, pour vous, avez-vous cette foi? Si c'est le cas, oui, vous assisterez à la gloire de Christ quand il reviendra. Vous verrez le glorieux ressuscité. Vous verrez votre corps et votre âme transformés dans la gloire du ressuscité. Vous verrez le mal anéanti. Vous verrez Satan jeté en enfer. Vous verrez ses serviteurs jetés en enfer. Vous verrez... Tu verras la gloire de Dieu. Le crois-tu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Je suis donc dans Jean, chapitre 11, verset 41. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus avec Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, regardez bien ce qui va se passer après. D'un homme, Jésus de Nazareth, divinement installé de éternellement dans la vérité, qui se manifeste à l'homme et qui fait le plus grand bien à l'homme, les autres vont en tirer une conclusion opposée, néfaste. Et ils vont orchestrer un tribunal, un réquisitoire mensonger. Lisons. Jean 11, verset 47. Alors les principaux prêtres et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Je pourrais expliquer pourquoi, mais c'est trop long aujourd'hui. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt. » Rappelez-vous bien le mot « intérêt ». Business. Business et pouvoir. Business et pouvoir. 14 000 prêtres. 17 000 lévites. Ça fait 31 000. Plus une femme. 62 000. Plus 5 gosses. 165 000. Plus 61. Nous voilà dans les 210, 220 000 personnes qui vivent de la religion, qui vivent de l'or, de l'argent, du bétail qu'on vient offrir au temple. Vous vous rappelez bien que ce mot « intérêt » conduit le monde encore aujourd'hui et ruine l'avenir du monde, jusqu'au moment où Jésus va arrêter tout. Alors, vous n'y comprenez rien. Jean 11, 50, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il faut donc fonctionner économiquement dans l'injustice et le mensonge, comme partout aujourd'hui d'ailleurs. Or, il ne dit pas de cela de lui-même, mais étant souverain prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. La vérité biblique est que cette imposture, cette accusation effrayante, diabolique à l'égard de Jésus qui va l'amener à la mort, va être source de salut pour les nations. Donc ça correspond à ces paroles qu'il a dit dans Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Verset 53. « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Jean 11, 53. « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Or, ils ont ici une manifestation glorieuse, une manifestation de la puissance de Dieu, une manifestation d'amour, de mansuétude, de miséricorde de notre Dieu et de son Fils Jésus à l'égard des humains. Et il crache dessus. À la fin du chapitre 11, verset 57, les principaux prêtres et les pharisiens avaient l'ordre que si quelqu'un savait où il était, donnez l'ordre, que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Vous voyez à quel point les intrigues politiques et religieuses peuvent être meurtrières. Et l'histoire nous l'a prouvé bien souvent. Et ça continue. Je reprends l'histoire de Lee Strobel, ce journaliste américain, qui parle de M. Dixon. Page 13 de son livre, « Finalement, Dixon avait été innocenté et avait porté plainte par la suite contre les services de police. Scanlon, l'officier de police menteur, avait perdu sa médaille, était passé en jugement devant un jury de cour criminelle, en plaidant coupable pour faute professionnelle et on l'avait limogé du service. Quant à moi, mes papiers s'étalaient en pleine une, donc dans tous les journaux. Le revirement de la justice, l'éclatement de la vérité avait fait la une et le journaliste était connu. Mais le plus important, c'était que j'en avais tiré des leçons très importantes pour moi, jeune journaliste. Parmi les plus évidentes, j'avais appris qu'on pouvait parler. On peut faire parler une pièce à conviction de plusieurs manières. Il était facile de rassembler suffisamment d'éléments de preuve contre Dixon pour le juger comme assassin. Mais cela était-il la vérité? Tous les éléments de l'enquête me paraissaient tellement convaincants. Ils étaient satisfaisants pour mes idées préconçues du moment. Ils étaient satisfaisants pour toute l'assemblée, pour les juges. Ils étaient satisfaisants pour les lecteurs de mon journal. Tout nous semblait convaincant. Eh bien, à la mort de Jésus, il était à peu près normal qu'il meure. Tout le monde était convaincu, à part quelques-uns qui pleuraient, qui avait peur, qui se réfugiait dans le cénacle, les disciples et les saintes femmes. Donc, le fauteur de troubles dans l'histoire de M. Lee Strobel, le journaliste, qui s'appelle Dixon, le fauteur de troubles, le raté, le désœuvré, le jeune d'une famille désunie, et désargenté, ce raté, ce fauteur de troubles, était pire que tout. C'est les flics qui étaient bons, l'accusation ne pouvait pas se tromper. Chers amis, il faut parler avec une autre paire de lunettes. Il faut faire un effort d'objectivité. Il ne faut pas suivre ces pensées préconçues. Il ne faut pas suivre ce qui nous paraît normal, ce qui semble être l'avis de tout le monde, l'a priori, comme on appelle ça. L'affaire de Dixon a permis d'éclairer ce journaliste athée en disant « Mais si c'était arrivé à Jésus ?» Si c'était arrivé à Jésus. Alors, vous trouverez plus tard, dans d'autres messages que je vais faire, les explications de M. Littrobel, le journaliste qui est devenu un jour théologien et pasteur. Quant à moi, j'ai été dans la Bible, j'ai fait des recherches. Et je suis là d'abord pour faire le commentaire de la Bible, la parole de Dieu, plutôt que d'un livre. Puisque c'est la parole de Dieu qui est la vérité, c'est la parole de Dieu qui guérit, qui transforme les cœurs. Prenons d'abord Hébreux, chapitre 4, verset 16. S'approcher de Jésus quand il est accusé par tout le monde, tout près de la croix, et pleurer, c'est déjà s'exposer à un risque énorme. S'approcher de Jésus et aller au tombeau pour essayer d'embaumer le corps et le mettre dans un tombeau digne de lui, c'est déjà s'exposer gravement. Ensuite, dire, oser proclamer qu'il est ressuscité et qu'il est venu pour nos péchés de tout le monde, c'est s'exposer encore plus gravement. Et proclamer que Jésus est le Saint et la vérité, et qu'il est venu donner sa vie pour nos péchés, et qu'il est ressuscité, c'est s'exposer à la mort. Oui, les apôtres sont morts. À part l'apôtre Jean, qui était sous résidence surveillée, tous les autres ont été des martyrs, même les femmes. C'est s'exposer à la mort. La vérité de Jésus dérange le grand menteur du monde et ses ouvriers. Mais ce Jésus de Nazareth, mort et ressuscité pour nos péchés, c'est la source de la grâce, c'est la grâce même pour nous, c'est l'issue favorable pour l'homme. Voyez la résurrection de Lazare du tombeau, c'est l'issue à la mort, c'est la réponse au problème de la mort. Ensuite, puisque Jésus a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et que le sacrifice de Jésus est saint parce qu'il est sans péché, et qu'il dit « Tout est accompli. » Ésaïe 53, l'annonce faite sur le mont Morija à Abraham, à Isaac, que Dieu pourvoirait lui-même au sacrifice qui sauverait le monde. Oui, tout cela s'est accompli. Et Jésus a dit « Tout est accompli sur la croix. » lorsqu'il pousse son dernier cri. Donc, le trône de la grâce, c'est le trône de Jésus, aujourd'hui dans le ciel. C'est sa croix, mais c'est aussi sa gloire. Il est ressuscité, il est sur le trône, et il va revenir pour régner. Donc, Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Jésus ressuscité dans sa gloire. » afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Trouver grâce, trouver le pardon, l'entier pardon, sur tous les péchés que nous faisons. Je vous ai dit dans mon dernier message qu'un enfant de 11 ans a parlé avec une fille d'un an de moins que lui. Et cette fille lui disait que la plus belle journée de la semaine pour elle, c'était quand elle venait à l'église. Alors le garçon, avec qui je fais des études bibliques, et une de nos filles aussi, qui sera un jour probablement pasteur, je l'espère, prendre la succession, eh bien, ce garçon dit « Tu as été touché par Jésus ?»« Oui, j'ai été touché. » Mais est-ce que tu as été transpercé par Jésus? Elle dit, ben, pas vraiment encore. Pas vraiment encore. Écoute, est-ce que tu veux que tout ton péché soit transpercé? Est-ce que tu veux que tous les clous de Jésus soient dans ton péché? Est-ce que tu veux que je prie avec toi pour que réellement tout se passe comme ça pour toi? Et la fille a dit oui. Ils ont prié. Un gamin de 11 ans qui parle aussi clairement du trône de la grâce, c'est un cadeau. Et je vous ai dit, lors de mon dernier message, que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Quel bonheur j'avais, moi, en entendant parler de Jésus. Quel amour j'avais quand j'étais petit. Et tout le monde s'en fichait, à peu près. Et j'ai cette immense grâce de voir quelqu'un de ma famille qui vit cela et n'est pas contrarié, combattu, et va peut-être porter du fruit abondamment. Mes amis, le trône de la grâce, c'est Jésus ressuscité, crucifié, vivant aujourd'hui, qui vous transperce. C'est-à-dire que ses clous sur lui vous transpercent. Vous êtes conforme à sa mort. Vous êtes crucifié en Christ si vous acceptez la défaite de votre péché totalement. Alors vous obtenez grâce et miséricorde. Alors après, vous pouvez être secouru dans vos besoins, bien sûr, parce que le péché revient toujours à la charge, n'est-ce pas? Donc on a des besoins. Donc ce verset de Hébreux 4, verset 16 est capital. Maintenant, allons toujours, c'est des versets souverains. Dans Hébreux 10, verset 22. Je vais commencer au verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire céleste par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers de sa chair, de son corps, à la croix. Et nous avons un souverain sacrificateur, prêtre, établi sur la maison de Dieu, sur nous tous, les croyants. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. En grec, meta alethines kardias, avec un cœur qui va au-delà des préjugés, qui va au-delà de ce qu'on a reçu par la culture. Pensez bien que M. Dixon, ce gaffeur, ce pauvre gars de la rue, qui avait été accusé et qui reconnaissait un meurtre qu'il n'avait pas fait, pensez bien que ce monsieur Dixon avait cru son avocat et s'était reconnu coupable alors qu'il ne l'était pas. Et pensez bien que toute la foule, même le journaliste, avait cru que c'était ça la vérité. Puis ce journaliste, après, s'est rendu compte, grâce à l'informateur et la police aussi, la justice aussi, s'est rendu compte que la vérité qu'ils avaient établie la première fois était fausse. Et que la vérité est seulement venue après. Donc, nous pouvons avoir dans notre esprit, dans nos réflexes, dans nos cultures, des vérités installées dans nos âmes, dans nos cœurs, qui nous semblent logiques et plausibles, et qui sont fausses. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Abraham de s'en aller de son pays? Genèse. Pourquoi? Parce qu'il lui dit ceci, va, quitte tout un pays, va dans le désert de Judée. Va par là où je te conduirai. Mais dans les textes en hébreu, c'est ceci. Va, quitte ta culture. Quitte les sentiments que tu as envers ton peuple. La culture, les manies, les traditions. Et suis-moi. Adopte-moi comme un vrai Dieu, vivant, capable de ressusciter les morts, qui te conduira à travers la pauvreté jusqu'à la gloire. ma gloire du ciel. Abraham avait eu ce message qui devait aller au-delà des vérités de son cœur, de son âme, de sa culture, de ses préjugés bien acquis et qui nous semblent tellement logiques. C'est ça le cœur sincère, c'est ça la plénitude de la foi. C'est un cœur qui va au-delà des barrières installées en nous et qui nous semblent des vérités. Dans les termes en grec, pour traduire la conversion, il y a plusieurs mots. Il y a métanoïa, ça veut dire changement de vie. Je vais dans le mauvais sens, dans une mauvaise direction, je fais le mal. Je décide de retourner vers le Christ, vers Dieu, vers sa parole. Je fais demi-tour, métanoïa. Et puis il y a apostrophéa, épistrophéa. Alors ces verbes-là veulent dire quoi? Ben, j'ai un obstacle devant moi, je vais sauter au-dessus, comme un cheval saute au-dessus d'une barrière, et je continue mon chemin. Ou si la barrière est trop haute, je passe à côté, je le contourne et je continue mon chemin. Donc le mot conversion dans notre langue en français est bien pauvre. Dans la langue grecque, il avait plusieurs sens. Et donc, il est certain que tout le temps dans notre vie, tout le temps, même si on a donné notre vie à Jésus, il y a des obstacles à sauter. Il y a des obstacles à contourner pour toujours aller vers la vérité, vers Christ. Et nous devons nous méfier de nous-mêmes, de nos réflexes, de nos habitudes, de nos coutumes, de nos traditions qui s'installent même dans les églises évangéliques. Même le meilleur chrétien connaît le péché. Le pire, c'est celui qui ne le voit pas. Jésus-Christ est le seul qui est sans péché et il est au-delà de l'obstacle. Nous allons vers lui. Nous allons vers lui. C'est lui notre gloire. C'est lui notre souverain prêtre qui intercède auprès de Dieu pour nous. Prenons Hébreux, chapitre 6, verset 19. Hébreux chapitre 6. Je commence dans le verset 18. Il est impossible que un puissant encouragement et le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. L'espérance, c'est Christ qui est sans mensonge, la vérité. C'est lui l'objet de notre espérance. Dans ce monde, il n'y a que du mensonge. Qu'est-ce que je peux espérer? Tout est décourageant, hein, finalement. Et cette espérance, verset 19, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Or, c'est quoi l'ancre? Quand le bateau est sur l'eau, le fond, je ne le vois pas. Mais si je veux que le bateau ne soit pas emporté par les vagues et tapé contre la rive ou contre les rochers ou enlisé dans le sable, il faut jeter l'ancre. L'ancre est lourde, c'est comme un double crochet. Il se plonge dans le sable ou entre les cailloux et il tient le bateau en place, pour que le bateau n'aille pas s'échouer et ne soit inutilisable et parfois connaisse un naufrage. L'ancre du bateau est nécessaire. Tant qu'il n'y avait pas d'ancre dans les bateaux, on perdait beaucoup de bateaux. Ce n'était pas le tout d'avoir traversé l'océan ou la mer, il fallait une ancre. Ce n'est pas le tout de vivre et d'avoir la foi, il faut une ancre. Et mon ancre, l'ancre de mon âme, elle pénètre au-delà du voile, elle pénètre au-delà de ma chair. Quand l'ancre est jetée du bateau dans l'eau, le bateau ne voit pas le fond, les marins ne voient pas le fond de l'eau. Eh bien moi-même, quand je dépose mon ancre sur Jésus, je traverse le voile de tous mes péchés, de toutes mes difficultés, je me repose sur lui et je ne serai jamais brisé, je ne m'échouerai jamais dans mes péchés. C'est l'ancre de mon âme, elle est sûre et solide. Et ma chair humaine reste toujours un obstacle jusqu'au moment où Jésus me transformera parfaitement dans sa gloire. Jésus est rentré, lui, dans la gloire. Il est rentré comme un précurseur, au-delà de la chair. puisqu'il est ressuscité. Il a été au-delà de la chair, c'est le verset 20. Et il a été fait souverain prêtre, comme pour toujours, à la manière, à l'ordre de Melchisédek. Lisez ces versets, Hébreux 6, 18 à 20. Et essayez de bien retenir les explications, approfondissez-les. Chapitre 9, verset 11. Chapitre 9, verset 11. Christ est venu comme souverain prêtre des bienvenirs, donc la vie éternelle, la gloire pour nous, la plénitude pour nous. Lui, il l'avait. Donc, il n'a pas besoin des bienvenirs. Il l'avait. Il l'a laissé d'un certain côté, pour un certain temps, de côté, pour s'approcher de nous. Philippiens, chapitre 2. Mais il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, le temple divin dans le ciel, qui n'est pas construit de fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il y a donc un temple divin parfait, super saint. C'est pour ça que celui de Jérusalem est détruit. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour lui, pour nous. Lui, il est Dieu, pas besoin d'être sauvé. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie, procure la pureté de la chair, humainement, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit Saint éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Alors, voilà le secours. Le secours de Jésus lui-même, capable par son esprit éternel divin de purifier ma conscience. Le voilà, l'encre de mon âme. Prenons le chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair. Nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Nous l'avons lu, mais c'est une invitation à répéter tous les jours. C'est une partie constituante de notre vie. Combien de temps restez-vous tout seul dans votre chambre avec le Seigneur Jésus? Combien de temps vous restez à genoux, pas seulement assis, ou couché, en vous prosternant devant Dieu? Approchez-vous du Dieu très saint, très haut. Dieu est saint, Jésus est saint. Jésus est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Lisez Ésaïe, chapitre 9. Il sera appelé Père éternel. Le fils de la Vierge. Chers amis, regardons Hébreux 12, 25. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Jésus veut me parler. Jésus veut s'adresser à moi. Il veut avoir une relation avec moi. Et gardez-vous de refuser d'entendre celui qui vous parle. C'est une mise en garde totale contre la vie superficielle, la vie sans relation à Christ, sans communion réelle à Christ. C'est une mise en garde solennelle. C'est un trésor que d'avoir cette relation. Vous ne l'avez pas encore demandé là. Suppliez le Seigneur. Lisez l'Évangile tous les jours. Lisez-le. Et demandez à Dieu qu'il vous révèle en vous, dans votre âme, dans votre cœur, son Fils Jésus. Là, quand il y est, vous allez voir, c'est différent. Vous êtes directement en connexion. Quand vous avez un téléphone, un ordinateur, il n'est rien tant qu'il n'est pas connecté. Quand j'ai mon smartphone et qu'on se parle, si vous n'êtes pas connecté, ça ne sert à rien. Je suis comme un perroquet, une perruche dans une cage, qui parle pour rien. Mais si vous êtes connecté avec moi, vous entendez des choses. Et moi, je vois vos visages. Je pense à vous. Je prie pour vous. Mais avec Jésus, c'est bien meilleur, bien mieux. Alors, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui vous parle. N'est-ce pas? Alors, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, le roi d'abord, hein, et si je suis en connexion, je suis dans son royaume, paix, justice, amour, joie, selon Saint-Esprit, Romains 14, 17. Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant grâce à Dieu, un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Donc, un culte dans notre chambre, tout seul, dans notre cœur, dans notre âme, où que ce soit, personnel, est essentiel à la vie chrétienne. Attention d'être dilué dans les courses, dans l'activisme ou dans la paresse, dans la lassitude, dans la démoralisation. Tournez-vous vers le Dieu vivant, chers amis, le Dieu vivant. Et vous verrez la vie, la source d'eau vive en vous. 13, verset 8. 13, verset 8. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Chers amis, j'insiste là-dessus. Le cœur doit être affermi par la grâce. Le Christ. Méfiez-vous des nouvelles théologies. Il n'y a pas besoin d'avoir le don des langues pour être sauvé. Il n'y a pas besoin de donner la dîme à son pasteur pour être sauvé. Il n'y a pas besoin de voir des réussites financières pour avoir la preuve que Dieu nous bénit. Nous pouvons être dans la pauvreté, dans la grande difficulté, être bénis. La vraie bénédiction, c'est la connexion divine en Christ, la communion. Jésus veut vous sanctifier et veut me sanctifier. C'est son but, c'est sa volonté. Si il y a des signes de gloire dans votre vie, tant mieux. S'il n'y en a pas, attendez, elle sera donnée. Prenez patience. Vous serez couronnés de gloire en Christ. Satan et tous les menteurs seront dans la défaite totale. Chers amis, je vous souhaite de tenir bon. Alors, avant de terminer, j'ai quelques petites confidences à vous faire. Depuis 2 ans et demi, je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour Saïd et pour l'école. Ici, le coût de la vie est tel et les difficultés d'argent des chrétiens font que je vois que les dons ont diminué. Et donc, je ne porte aucune amertume, aucun jugement sur aucune personne d'entre vous. Rien du tout. Simplement, je dis priez pour Saïd et priez pour les chrétiens là-bas. J'espère bien pouvoir continuer à les aider. Et il est vrai, dans notre maison ici, nous avons des réfugiés. Nous avons aussi des dépenses à faire pour l'église, pour l'école, pour l'aménagement des locaux, etc. Et eux, nos frères et nos sœurs là-bas. Priez pour que nos frères et nos sœurs qui vivent dans la pauvreté, dans beaucoup de petits villages, qui fabriquent des briques à pieds nus dans la boue, comme les Hébreux en Égypte, pour qu'ils voient l'amour de Christ de notre part, de la part d'autres. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir les aider et prier. Mon cœur saigne, quand je ne sais pas aider mes frères et mes sœurs, où qu'ils soient. J'ai toujours eu en moi ce désir d'aimer et d'aider. Mais des fois, souvent même, j'étais impuissant. Priez donc que Dieu intervienne, fasse des miracles. Et il est clair que quand Jésus disait à ses disciples, priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson, car il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Les ouvriers n'ont pas compris. Plus tard, ils sont devenus de bons ouvriers, car ils ont connu le sacrifice d'eux-mêmes, comme Christ. Ils ont été conformes à la mort et à la résurrection de Christ. Chers amis, nous-mêmes, où que nous soyons, nous devons être dans l'itinéraire de Christ, conformes à sa mort et à sa résurrection. Soyons solidaires dans le corps de Christ, à travers le monde. Quand je vois les rapports de Porte Ouverte ou de d'autres associations chrétiennes, on voit que le monde chrétien souffre. Et je vais vous dire qu'ici, ici même, nous avons énormément d'activités chrétiennes et c'est un miracle que nous puissions tenir. Je demande le même miracle dans vos vies. Je demande le même miracle pour Saïd. Je demande le même miracle pour tous les frères et les sœurs dans le monde, qu'ils voient l'amour de Christ en œuvre pour eux. Nous savons que Satan est mauvais. Nous savons que Satan veut la destruction du monde. Nous savons que Satan veut faire apparaître sur la scène du monde un faux Christ. Nous savons qu'il y aura beaucoup de gens qui seront séduits. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui vont nous laisser séduire. Nous ne sommes pas de cette race qui va se laisser mener par le menteur. Nous avons adopté Jésus, le prince de la vie et de la vérité. Laissons-nous conduire par notre berger divin. Et je lis le dernier verset de Hébreux. C'est une épître que j'ai bien eu de la peine à lire pendant une partie de ma vie, comme l'épître aux Romains. Mais finalement, ce sont des monuments, des chefs-d'œuvre de la Bible. Hébreux, chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Celui qui a donné sa vie à Jésus doit être assuré du salut. Je vous le dis, je ne suis pas de ceux qui croient qu'on perd le salut. Si réellement on a donné sa vie à Jésus, il peut arriver qu'on ait de nombreuses faiblesses. Mais dans l'Épître aux Hébreux, c'est mis clairement que notre grand prêtre est capable de compatir à nos faiblesses. Il ne faut pas douter de la puissance de la grâce, mes amis. Il y a des doctrines qui culpabilisantes. Si vous êtes sauvés, il doit y avoir des grâces, vous devez avoir des avantages, vous devez avoir ci. Oh, si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas sauvés. Ne croyez pas cela. Christ, dans la gloire, est votre rétribution et la mienne. Amen.